Comment faut-il? Que je vous le dise.
Comment faut-il que je vous le dise?
Canu
102.2
émission comment faut-il que je fasse du Larsen.
Moi je fais de la poésie punk avec du son, des mots, des trucs dans tous les sens et dans tous les abécédaires à l'envers.
Prononcez les mots avant qu'ils ne s'endorment.
Qu'il ne soit trop tard, ne zappez pas. Nous allons bientôt mettre les mots dans l'ordre. Des mots qui auront peut-être un sens, peut-être pas. Ça dépend de la lecture, du vocabulaire que nous avons, des mots qui existent, d'autres pas encore, que vous comprendrez, que vous inventerez, que vous imaginerez. Nous définirons tout cela ensemble, mais c'est pas sûr qu'on donne des explications.
Et ce sera sans discussion.
Mais avec qui ? Avec Adrien.
Bonjour.
Avec Greg.
Bonsoir.
Avec FX.
Salut.
Et avec moi, Julie.
Bonjour.
Et nous noterons, mais nous embrassons, l'absence de Delphine. Ce n'est pas l'absence que nous embrassons, mais bien Delphine. C'est parti.
Ok.
C'est parti.
Ton soir, mon soir, à la fin de l'après-midi, ton thé, mon rêve, quand la pensée dérive et que délire l'âme, de la haute terrasse, le parc, à mes pieds flamboyants et la mer de Gorée, et devant toi les vagues bruissantes des blés sur le versant des terres hautes, devant moi le silence humide et seul le froissement soyeux des vagues, soudain traversé par la trompette des grues couronnées qui s'appellent avant la nuit, le jour qu'on jure les dieux, blanc des ténèbres, le jour tressaille sur les murs blancs, terrasses blanches de l'île, avec le concert splendide des oiseaux au crépuscule. Regarde la nuit descend sur Gorée, de vieux roses vêtues comme les signards jadis, à l'entrée du grand bal. La nuit descend sur l'île douce où s'allument les lampes, sur la mer, dans le port, s'allument les bateaux longs de tous bords.
Os, temps, cils, lance, l'encens, déploie, tête, roule, cou s'arrondit, le col ondule, tente la spirale jusqu'au bas, sein doux, chair souple, laisse les épaules découvrir la l'envers. Cheveux dans le vent, le souffle change, hume autrement. Tire doux du haut du coccyx jusqu'au bas du crâne, du haut du coccyx jusqu'à la plante des pieds, jusqu'aux plantes des pieds. Vent, tri, l'eau, que, laisse couler mon corps. Ondule, vibre, trame, la vivacité. J'enchaîne, je déchaîne, je vibre, je crois, jumecte et je parle. Ainsi se découvrent les sensations sur le bord de ma peau, sur le coin de ma bouche, jusqu'au bout du haut de mes oreilles. Elles frétillent, elles vacillent, elles tombent, elles s'endorment.
Et oui, petit souci technique avec la mise en place du CD. Mais a priori, nous sommes revenus. Voilà, c'est la création, les rebonds, les récréations. Et nous sommes revenus.
Comment faut-il que ça marche, la radio ?
Eh bien, ça marche avec des expériences. Et la prochaine expérience que je vous propose, c'est d'écouter le texte suivant.
Toutes les phrases et les fragments que vous allez entendre tout à l'heure ont été écrits par d'autres que l'auteur, dont actuellement je lis le nom en couverture de ce livre, qui les a juste choisis, coupés et disposés. Les enfants vont bien est un livre de montage. Pourquoi ce choix ? Dans un précédent livre, Un œil en moins, j'avais déjà abordé la question des réfugiés, des migrants, comme on dit. Mais son parti pris narratif me semblait, au moment même où j'écrivais, insuffisant à rendre compte de la violence faite en France à ces hommes, ces femmes et ces enfants. Le sort qui leur est fait est fabriqué, puis justifié et légitimé par un ensemble de paroles et de textes en renouvellement permanent, issus aussi bien des institutions de la République que d'instances ou de concitoyens qui croient bien faire. Il y a, bien entendu, une différence de taille entre telle ou telle phrase des présidents de la République ou de leurs ministres de l'Intérieur déclarant tous, invariablement, année après année et quelle que soit leur couleur politique officielle, qu'il faut faire preuve de fermeté et les batailles incessantes auxquelles se livrent les réseaux d'aide pour obtenir de quoi chausser, de quoi nourrir, de quoi mettre à l'abri, ne serait-ce que pour quelques jours, une famille. Tout le monde n'est pas à mettre dans le même sac. Ce livre, aussi bien, n'est pas un sac. Chaque fragment a, sur la page et selon sa provenance, une place et une typographie attribuées. Le cynisme et l'opportunisme sans frein des hommes politiques ont la leur, tout en haut. Puis, successivement, l'apparente neutralité des textes de loi. La gestion administrative, à la fois débonnaire et implacablement bureaucratique et dirigiste des centres d'accueil. La routine éditoriale de la presse quotidienne. Et, un peu à part, parce que le vocabulaire, la syntaxe, la ponctuation n'ont pas le même ton et témoignent d'une vision réellement différente de la situation, l'expression de la ténacité, de la fatigue, du découragement des réseaux d'aide, à sa place, en bas de page. Ce livre n'est donc pas un récit. Il ne raconte pas l'histoire des réfugiés en France entre 2014 et 2018. Pourtant, vous pourrez, à la lecture, suivre sans peine une progression lacunaire, une chronologie trouée, commençant par l'ouverture d'un centre d'accueil en province. L'essentiel se joue, comme pour les réfugiés, et pour nous tous, dans l'implicite, dans ce qui n'est pas dit, l'officieux, le négociable et le non négociable, le papier qu'on n'a pas, dont on vous dit que vous l'aurez et qui ne vient jamais, et dont, parfois, vous doutez de l'existence même. Une amie me racontait récemment comment la préfecture lui avait fait comprendre qu'elle allait devoir choisir entre sauver une jeune femme qui était menacée d'une obligation à quitter le territoire français et manifester pour l'ensemble des réfugiés que les bénévoles alors soutenaient. Si elle manifestait devant la préfecture, la jeune femme était condamnée, chantage ignoble. La majorité de nos concitoyens éprouvent, semble-t-il, une relative indifférence quand ce n'est pas de l'hostilité à l'égard de réfugiés qui, par petits groupes errants et épuisés, traversent nos villes. Sans doute n'ont-ils pas encore compris que tel était le sort assigné, à plus ou moins court terme, à tous ceux qui ne sont pas assez vigoureux et fermes pour être en tête. Contrôlés, ayant à peine de quoi vivre, et avertis qu'ils n'auront rien s'ils pensent à protester. Les événements récents ont montré, quand on sait les lire, que bien que blanc et bien que... Et bien sous tout rapport, nous ne sommes plus forcément assurés d'être éternellement du bon côté du manche. Les enfants vont bien essayent de dire tout cela, et pour le dire, le livre hérite d'une forme et de façon de faire inventée ou utilisée par d'autres. Il me reste à les remercier et à les citer. Charles Reznikoff, dont les éditions POL ont publié une traduction de témoignages en 2012. Amrad Baker, dont les éditions Héros Limite ont publié en 2017 Transcription. Jacques-Henri Michaud, dont « Un ABC de la barbarie », publié chez Aldante en 1998, a durablement marqué ma génération. Au-delà de ces poètes, le repérage et l'analyse des éléments de langage, de ceux qui entendent nous gouverner par la parole et par le fait accompli, me semble être ouvert à tous. Au demeurant, le double sens, le vide à peine masqué et le ridicule de certains de ces éléments sont-ils de plus en plus établis ? À nous de parler et d'écrire autrement.
Coucou, j'ai installé une carte du monde sur le mur d'une des deux salles où chacun a pu mettre une étiquette autocollante à son nom et reliée à son pays, voire sa ville d'origine. De l'initiation avec comme objectif le français courant, usuel, pour pouvoir se débrouiller dans la vie de tous les jours. Imaginons-nous voyageant dans un pays étranger. De quoi avons-nous besoin ? Et à l'écrit, uniquement les noms, prénoms, date de naissance et pays. Dire comment ça va bien, ça va très bien, je suis content, ça ne va pas, pourquoi, je suis fatigué, triste, malade. Dire comment aller à la poste, comment faire, comment dire.
M, deux familles avec des enfants de 3 et 7 ans pour l'une et un enfant de 2 ans pour l'autre. A. Une famille avec des enfants de 8 ans et 11 ans scolarisés. Et D. Deux familles avec des enfants de 10 et 14 ans pour l'une et 7 et 9 ans pour l'autre.
Du cœur, bien sûr, mais un cœur intelligent.
Semaine du 28 novembre. La maison, les différentes pièces, les meubles, les objets. Semaine du 5 décembre. L'extérieur. La nature, les rues, le village, la ville. Semaine du 12 décembre, les repas. Aliments, repas, habitudes alimentaires et culinaires. semaine du 19 décembre, la routine quotidienne, gestes quotidiens, objets. Qui présente la journée ? Le programme est vraiment sympa. Il y a de quoi régaler aux propres comme aux figurés, locaux et expatriés. Dans les nouveaux venus, il y a S qui est musicien, synthé et chanteur, reggae. Et il souhaiterait intégrer un groupe de musique. Il serait super heureux si quelqu'un pouvait lui prêter un synthé. Cela fait 15 ans qu'il en joue. Il maîtrise bien le français. De même, A, qui joue des percussions, et serait également enchanté d'intégrer ou pouvoir répéter avec un groupe.
Après le mot maintenu, est inséré le mot irrégulièrement.
Besoin. Téléphone que vous pouvez remettre aux employés de C, donc horaire de bureau. Pensez bien à leur demander d'amener leur cahier. Il y en a un pour chacun qu'ils doivent garder et ramener.
Il faut concilier efficacité et générosité.
Le 5 petit A et petit B du grand 1 prévoit la clôture d'examen de la demande en cas de non-introduction de celle-ci auprès de l'office.
Tous sont très avides d'apprendre, ça fait du bien.
Dans la République, les fonctionnaires appliquent les mesures du gouvernement.
Dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
Besoin. Pantalon jusqu'à la taille 42, en particulier des jogging, dont les mineurs sont très demandeurs. Chaussures de sport jusqu'à 42.
Notre devoir est de trouver des réponses durables. Il n'est jamais vain de produire de la réflexion.
Ceinture, maillot de bain, piscine. Personnellement, cela fait chaud au cœur de voir tellement de bonne volonté et de motivation. Ah, gants et vêtements pour la neige, guêtres, en vue d'une sortie raquette ou autre. Raquettes de ping-pong et balles. Ballon de foot, très utilisé.
Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision définitive concernant cette demande. Son montant est révisé, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l'évolution des prix, hors tabac, prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.
Il ne peut y avoir d'humanité s'il n'y a pas de fermeté. Je ne vous fais pas un dessin.
Le foot a un très grand succès. Le terrain est occupé quasi tous les après-midi. Ce samedi, des matchs ont été organisés avec grand succès, avec la participation de personnes externes. L'équipe de C va de son côté travailler sur la constitution des groupes annoncés et sur l'assiduité, le respect des horaires.
Ils auraient reçu une lettre dans leur boîte aux lettres, leur demandant leur adresse. Dans les infos qu'on a pu grappiller, il semblerait que la préf soit sur une logique de faire effectuer des entretiens individuels aux personnes en CAO pour requalifier les procédures Dublin en procédures normales ou accélérées, ce qui en soi est une foutrement bonne nouvelle.
Par ailleurs, les résidents ont du mal à se motiver seuls pour aller jouer au foot. Mais si quelqu'un vient leur proposer et les stimuler, il trouvera sans doute suffisamment de volontaires pour faire une bonne partie.
Les procédures contentieuses sont également revues, notamment par la création d'une procédure de recours suspensif, procédure accélérée devant un juge unique de la CNDA en 5 semaines.
Nous allons continuer à travailler autour des thèmes hebdomadaires.
Un droit d'asile plus efficace, c'est être fidèle aux valeurs de la République et aux messages de la France.
Dans le cadre de leur travail quotidien, les travailleurs sociaux et éducateurs ont affiné les besoins des résidents et le planning a été repensé pour panacher français et possibilité de faire d'autres activités, tout aussi importantes pour l'équilibre que nos amis essaient de trouver ici.
Il s'agit en particulier de sécuriser le prononcé des décisions d'éloignement.
Personne n'est venu à la première séance.
Les nouvelles procédures de demande d'asile sont complexes. On n'interdit pas dans notre pays, on rend simplement les choses inaccessibles. Le contact avec la préfecture est très difficile en ce moment. Pour faire une demande de dossier de régularisation, il faut appeler la préfecture qui nous passe le service adéquat. À 2 reprises, le contact téléphonique a été violent. La première fois, c'était un demandeur d'asile qui a appelé et qui s'est entendu dire qu'il n'avait pas à faire cette demande, qu'il devait rentrer chez lui, etc.
Car, comme tu le dis, ils viennent de façon un peu anarchique, pas toujours suivis.
Petit C. Au 5e du grand 3, les mots « en France » sont remplacés par les mots « sur le territoire de la République ».
Parmi les 11 adultes qui sont partis, certains avaient déjà une procédure administrative lancée ailleurs. D'autres n'ont pas souhaité rester.
Nous avons pour la première fois dû faire face à des familles réfugiées, sans logement, sans aucune aide devant la demande d'asile.
Nous allons accorder aux policiers et aux gendarmes, qui sont dans le Calaisis, d'une prime exceptionnelle de résultats.
Besoin notamment en chaussures, tongs à partir de la pointure 39-40 à plus. Afin que l'atelier du 23 novembre soit le plus productif possible, ce serait bien d'avoir le maximum d'informations sur ce qui a été fait et est fait. D'autre part, je vous demanderai de rester discret quant au TS.
Oui, qui prend les décisions au nom de quoi, comment et pourquoi ?
Il faut bien comprendre que les solutions gentillettes, les demi-mesures ne régleront rien. Nous ferons donc des sanitaires mobiles.
Cependant, au terme de ces 15 jours de mobilisation, nous n'avons obtenu aucune réponse à nos demandes.
D'une manière générale, on ne s'interdit rien.
Augmenter notre efficacité et donner les meilleures chances à nos amis.
Explose ! Et pousse, explose, écroule, enfonce, appuie, meurs. Meurs. Ou bien vers les arbres, des éclairs retournés, la même énergie en tous sens. Et j'aime. J'aime le sang comme le rire. Explose. Mes dents, mes lèvres de rouge, mes artères. Je m'épuise, l'air manque. Ou lentement pénètre jusqu'au cri, allaitement, sifflement. Murmure. Les chevaux se cabrent, poussière, s'ouvrir des champs. Explose, explose, va et vient de tous côtés, hurle, bouche subtile, arrache des mots, glisse-les le long dehors. Le vent est presque mon frère, l'ornière que tu creuses plus encore. Bois, bois plus encore, parsème depuis les cimes dans l'air familier. Je veux ta griffe, ton sommeil. Ta disparition au coin de la rue. Je veux ton absence. Je veux ton passage. Je veux t'étrangler, m'étrangler. La psychose du haut d'un arbre. Être au ras de la sagesse. Je veux en finir. Une image de moi engendrée. Veux, malgré tout, veux. Explose. Un bouillon en gorge. Mots, langue, nos bouches et anus. Veux, poète. Je m'abandonne au style. Je vis demain, ici, vomis, bois, veux, plus encore d'étoiles, de flammes, souffrance, cracher des pilules, voir des cierges, des langues nues, m'étendre, couler lentement au miel du matin. Cette nuit, encore cette nuit, ne veut plus que dessous les paupières, les iris agités sous le vent, mon frère, mon amour.
Ça tourne.
Et ça tourne.
Je l'ai pas dans le casque.
Nous intitulerons cette émission Ça capote.
Qui est le nouveau stagiaire?
Ça capote
à la
pour
régie.
Qui? Ça capote pour toi? Ça capote?
Oh oh oh, la nuit des embarras. Dans cet univers, il y a peu de sourires. Celui qui s'y meut fait une infinité de rencontres qui le blessent. Cependant, on n'y meurt pas. Et si l'on meurt, tout recommence. Les charrues en sucre blanc ou en verre soufflé ou en porcelaine sont un obstacle à la circulation. Les nappes de lait caillées aussi, quand elles viennent jusqu'aux genoux. Si par hasard chacun tombe dans une barrique, même si le fond a disparu et que les pieds soient libres, la marche et la circulation deviennent difficiles. Si, au lieu des tonneaux, ce sont des kiosques, la marche y est fort fatigante. Un monde de dos de vieille pour trottoir aussi. Les fagots de baguettes de verre blessent, c'est inévitable. Les fagots en verre blessent, les fagots de tibia effraient plutôt. Les murs en viande avariée, même fort épais, s'affaissent et se bombent. On ne peut pas dire qu'on puisse y vivre sans les surveiller un peu du coin de l'œil. Quand on aperçoit dans sa main de fines veines en acier, cela vous refroidit considérablement. La paume cesse d'être un creux. Petite chemise maintenant tendue de pu, on est gêné, les interventions manuelles passent au strict minimum. Un cratère qui, dans une joue adorable, s'ouvre sous le baiser. C'est bien peu charmant. Sa dentelle pourrie ne séduit pas. On se tourne d'un côté. Les citrons noirs font peur à voir, un jersey en verre de terre. S'ils donnent de la valeur, la donnent aux dépens bien de leurs sentiments. Des hommes qui tombent coupés en deux par le travers. Les tessons d'hommes, ces gros tessons d'os et de chair, ne sont guère des compagnons. Les têtes qui ne communiquent plus avec le ventre que par les lianes, ou sèches ou humides, qui songeraient encore à leur parler intimement, c'est-à-dire sans arrière-pensée, avec naturel. Avec des lèvres de zinc, quelle tendresse est encore possible? Et si aux pauvres on offre des tartes à la compote de boulons, qui ne se vantera d'être riche? Quand le beurre, perdant l'équilibre sur le couteau et grossi d'un coup, tombera comme une dalle, gare aux genoux. Et maintenant, des corps de poulpe dans l'oreiller. Et si la cravate devient de la colle coulante, et l'œil un caneton aveugle maigrement duveté, et que le premier froid va assassiner. Et si le pain se fait ours et réclame sa part et qu'il est prêt à tuer, et si les oiseaux de proie qui désirent passer d'un coin du ciel à l'autre, aveuglés par on ne sait quelle idée, utilisent dorénavant comme trajet votre propre corps, agrandi par miracle, se frayant un passage au travers les fibres des gros tissus, avec leur bec recourbé, ils font d'inutiles dégâts, et les cerfs, des maudits oiseaux, se prennent gauchement dans des organes essentiels. Et si, cherchant le salut dans la fuite, vos jambes et vos reins se fendent comme du pain rassis, et que chaque mouvement les rompe de plus en plus, de plus en plus. Comment s'en tirer maintenant? Comment s'en tirer?
Umaru, épisode 17. Résumé des épisodes précédents. Après plusieurs tentatives infructueuses pour traverser Gibraltar à la rame, Umaru a gagné le ghetto Kasiago. Il a trouvé une communauté exsangue et incapable de se reprendre en main. Avec Ferdinand, tu as repris la communauté en main et à présent, tu te diriges vers la frontière. Le surlendemain, vous retrouvez sans surprise le balai des bruits de moteur et des gyrophares, celui des plongeons dans les bas-côtés. Le noir de ta peau glisse alternativement de la soie de la nuit au chanvre de la garrigue. Sur le chemin, vous écartez les obstacles les plus évidents, ceux du moins que la nuit vous laisse deviner. Les branches mortes et des canettes d'aluminium prêtes à craquer sous vos pas. Même objectif de discrétion, même dispositif. Kanganeba et Shamokai devant, les trois conseillers derrière. L'homme de Gorogo repart vers la tête du groupe. Quand vous le rejoignez, c'est à proximité d'un feu allumé sur le bord de la route. Un petit brasero est posé à quelques pas de la surface de goudron. Qu'est-ce que c'est ? Kanganeba dit que c'est un leurre. Il dit que les flics allument un peu partout des feux comme celui-là, à la fin de leur service, pour nous faire croire qu'ils veillent toute la nuit. Attention les gars, c'est ce qu'on croit, mais c'est pas encore sûr. Ça va faire partie du travail de vérifier tout ça. Tu apprécies à leur juste mesure les apports de votre premier repérage. Il nous a fallu qu'un peu de moins de 2 heures cette fois pour atteindre l'entrée de la seconde forêt. Cette réjouissance est de courte durée. Les types connaîtront pas la route. Il n'y a pas de raison qu'ils mettent moins de temps que la première fois. Faut les faire accompagner par des guides qui connaîtront le chemin. On n'est que 5 à connaître. 5 guides, c'est pas suffisant. On peut pas faire des groupes de 100 personnes. Il faudra revenir avec d'autres pour les former. Si on fait des groupes de 10 ou 20, il nous faudra quelque chose comme, disons, entre 30 et 50 guides. Il pleut. Vous êtes trempés et le froid vous saisit. Allumer un feu serait pure folie. Vous vous mettez aussitôt à la recherche de la cachette qui vous permettra de vous réunir. Venez voir par là. On ne tiendra pas à 500 ici. Il faut chercher quelque chose encore. Tu es fou. On est trempé, on ne voit rien. Il vaut mieux faire le travail de jour. Tant qu'on reste à l'abri du maquis, on est en sécurité. On sera plus sûr de retrouver la cachette et on pourra bien mieux nettoyer l'accès demain matin à la lumière. Nouvelle approbation. Nuit de frissons et d'attente. Peu de sommeil. Le lendemain matin, vous remettez en marche vers 8h. Sans carte ni GPS. Vous explorez le maquis au hasard sans résultat. Venez voir. En une poignée de secondes, vous rejoignez Kanganeba dans une étendue de végétation à peine plus lâche. Le camaïeu de la canopée laisse entrevoir une colline crénelée de falaises où se prélasse une couronne de brouillard. Là-haut, c'est le Mont Blanc. Le Mont Blanc ? C'est pas en France, le Mont Blanc ? Bien sûr que si, c'est en France. Kanganeba te coupe aussitôt. C'est moi qui l'ai appelé comme ça. Il y a toujours de la brume là-haut. Je crois que j'ai jamais vu le sommet. Mais quand même, en montant sur le côté, on devrait tout voir, la frontière et le parcours pour y arriver. Vous hésitez. Un bon point de vue est souvent un point d'où l'on est facilement repérable. Vous êtes trop près du but pour prendre ce risque. La décision est prise. Vous ne quitterez pas l'ombre du taillis, tant pis pour les heures perdues. Vers midi, vous arrêtez enfin votre choix dans un bosquet touffu dont le cœur est plus aéré. On ne découvre ce vaste espace qu'après avoir suivi des sentiers de gibier, parfois à 4 pattes, dans les branchages et les épineux. Vos corps sont couverts d'égratignures, des escarbilles que vous ne sentez plus. Ici, c'est bien. Ouais, tout le monde est OK ? Approbation générale. Une tâche essentielle de votre mission vient d'être accomplie. Le temps n'est pas à la célébration pour autant. Je propose, on se planque ici pour la suite, ce sera notre camp de base. On va laisser nos affaires dans le coin et commencer tout de suite le nettoyage et le balisage de l'itinéraire. Ça vous va ? Tout le monde retrouvera l'endroit si on se sépare ? Tout s'acquiesce. C'est parti. Retour en direction de la route. Une à une, vous écartez les branches mortes, élargissez les traces de sentiers, éloignez les bouteilles en plastique, les canettes et tous les déchets qui pourraient vous faire repérer. Parmi les détritus, certains sont récupérés, découpés pour en faire des balises. Des lambeaux de tissu, des fragments de plastique, des tessons de bouteilles s'alignent peu à peu sur l'itinéraire. Voilà nouveau Petit Pousset. Petit Pousset sans bottes de 7 lieues, Petit Pousset sans bottes du tout, car vous avancez le plus souvent pieds nus pour ne pas vous faire entendre. Parfois, une épine vous arrache un sursaut malgré la corne qui, de jour en jour, s'accumule sous vos pas, semelle de chair. Vous poursuivez votre entreprise une partie de la nuit suivante et du lendemain. À la tombée du jour, vous vérifiez si les balises sont encore visibles de nuit. Puis vous vous dirigez vers le dernier tronçon de l'itinéraire. À force de vous déplacer comme des loups parmi les buissons, votre méfiance s'est amenuisée. Vous êtes vulnérable. Les réflexes de prudence se perdent au fil des minutes et plus encore à mesure que l'obscurité vous enhardit. Stop ! Sursaut collectif. Mouvement de balai qu'on aurait cru répéter longuement. Mouvement de balai répété depuis la nuit des temps par tous les troupeaux de proies à l'approche d'un prédateur. Ce n'est que la voix de Kankaneba. Avant toute chose, il faut que je vous montre le danger. Tous, vous pensez savoir de quoi il s'agit. Vous l'avez si souvent évoqué au camp. D'un signe, le jeune homme vous invite à une escalade dans le maquis. Au signal suivant, vous êtes aplati sur le sol. Le troisième désigne la vallée qui coule vers le village, vers un attroupement d'habitations. C'est là. Une poignée de lumignon d'un calme trompeur. Au-delà des taches jaunes crachotées par les lampadaires, le clignotement vert d'un phare. Kankaneba désigne un laser capable d'une fauchée de dénombrer les candidats à l'entrée illicite en Espagne. Le visage plus bas que terre, la joue marquée par les pierres qui jonchent le sol, vos yeux enregistrent son mouvement circulaire, prennent dans le paysage les repères nécessaires pour en déterminer la portée. L'homme de Gorogo et Ferdinand échangent un regard. L'itinéraire évite au maximum son rayon d'action. Vous pourrez difficilement faire mieux. Tu imagines tes troupes engagées dans le sillon de la vallée. Tu pressens leur inévitable maladresse. Certains se feront prendre, c'est sûr. Combien ? L'enjeu est là. Il suffit que les Espagnols vous croient moins nombreux que ce que vous ne serez. Telle est la condition du surnombre. Telle est la principale hypothèse à satisfaire pour que certains puissent se présenter devant la barrière. Tu regardes le laser effectuer une dernière ronde. Ça peut marcher. Certains passeront. Certains passeront, c'est évident. Certains passeront.
Nature est morte. Insensée de la nommer. Insensation de commencer ainsi de la nommer. Car pour la figer, pour l'adjectiver de fort belle manière, comme nous le faisons de nos bouches rosées, pour que la rose emmêle nos deux corps, d'abord il a fallu qu'elle soit étendue devant nous, nature rosée. Il a fallu qu'elle soit reconnue par nous, qu'elle soit distinguée en nous, rose aux contours nets, se distingue brillante à nos regards et son rouge absolu. Et si la rose et ses épines certaines, si la nature est morte, alors de quoi ? Qui l'a tuée ? Sa splendeur et sa brillance matent maintenant sous nos coups de pinceau, sous nos mots inscrits au répertoire de nos civilisations. Si sa dépouille gît maintenant à nos mains creuses à force de l'avoir creusée, c'est que d'abord nous l'avons tenue, l'os d'abord dessiné, nous avons pratiqué des trous, des fragmentations, identifier les miettes, archivées au comble de nos cerveaux, recombinées d'audacieuses façons. Et nous avons créé nature seconde. Dans les décombres d'organes et d'acier suffocants, si poussière tremble aujourd'hui, évoquant dame nature par miracle, c'est, dit-on, notre seconde nature qui se révèle, en place de la première pour toujours tuée et enfouie. Résurrection éphémère de dame nature jetée à terre et piétinée, rappel instinctif, corporel, naturel. Mais il ne faut pas le prendre mal, surtout. Nature première est morte. Nature seconde est la seule existante. Sous nos mains, devant elle, nature seconde est notre nature. Il ne faut pas le prendre mal. Il ne faut pas se lamenter. Il ne faut pas jeter les pierres qui ont aussi servi à bâtir. Vous ne pouvez pas. Même l'obscurité de vos méthodes passéistes de retournement est une lumière signifiante. Voyez avec dégoût, s'il le faut, les murs que nous avons bâtis. Voyez, seconde nature, nature seconde, nature première de nos civilisations. Elle est le tigre, le pétrole, le sable, la mer, l'être humain, l'accouplement, les éruptions et les marées. Oui, bien sûr. Elle est le tigre, la lance, le fusil, la poudre, le couteau qui en découpe la peau. Elle est le pétrole, la pompe qui l'extrait, le plastique et l'asphalte de nos routes. Elle est le sable, le torchis, le ciment et le béton. Elle est la mer, le cristal de sel et notre sel de table iodée et fluorée. Elle est l'être humain, oui, homo sapiens cyborg androïde. Elle est l'accouplement, vagin, clitoris, pénis, sperme, utérus, anus, vénus, gamètes et hybridation, mutation, sélection, croisement et modification génétique de cellules souches. Elle est les éruptions et les marées, oui, et toutes les catastrophes, la bombe H et la vision ultraviolette, les comètes et les planètes de toutes les galaxies de l'univers. Elle est tout, à la fois tout et rien. Une vision aveuglée. Elle est bien au-delà de Mère Nature. Mucho más allá de Pachamama. Car la Pachamama n'a jamais été étendue devant nous, ni devant personne. Et fragmentée, disséquée, analysée, émiettée. Ni première, ni seconde. Jamais n'a régné Pachamama Segundé. Ni première, ni seconde, ni jamais. Alors, il est grand temps d'en finir avec nature première. Car elle n'en peut plus, elle est à bout de course, sèche. Elle n'est plus que poussière. Et vos obscures tentatives ne font que remuer et forment des grumeaux. Arrêtez-vous. Surtout, arrêtez-vous, cessez de prier et d'invoquer, vous êtes ridicule, vous ne savez pas faire, personne ne sait plus faire ici. Le temps est venu d'en finir et d'accepter à la place nature seconde, d'accepter la succession, le règne de dame nature seconde. Le temps est venu d'accepter dame nature seconde comme reine. Elle l'a méritée. Il nous faudra la célébrer, l'étendre devant nous et la célébrer. Lui faire grand fête, une fête digne d'une reine, c'est-à-dire la guillotiner, lui trancher la tête de notre amour le plus net.
Tu te languis de Dakar, de son ciel, de son sable, de la mer. Je me languis de toi comme d'un bonheur adolescent en automne. Je chante en t'écrivant comme le bon artisan qui travaille un bijou d'or. Alors je danserai, léger et grave, la danse de ma dame, et pour ma seule dame. Simplement ton pays au déclin de septembre, où les nuits sont plus fraîches, les jours plus cristallins, et la lumière joue souple et soyeuse dans les rideaux, et sonne sur les bronzes sombres, et chante sur les plats d'argent, la lumière dans le ciel bleu, violet à peine, joyeux et léger, innocent. Fume au loin des brumes basses sur les villages alanguis. Chantez la floraison de septembre dernière, la confusion des parfums transparents. Ah, chantez la lumière de tes yeux grands étals, quand saigne mon cœur sur la vigne vierge, pour la dernière fois. Dans l'arrière-saison, avant que ne soient les vendanges, jamais, mais jamais tu ne seras plus pathétiquement belle. À la fin de l'été, pour chanter tes yeux, tes senteurs, beauté. Dieu, que je vête la chape d'or des marronniers, non. Pourpre des érables sur les Laurentides, ou sur la lune, le long pagne d'opale des peupliers au bord de l'eau. Tu viendras et je t'attendrai à la fin de l'hivernage, sous la rosée qui s'irise. Tu seras comme le filao sous une neige de glace.
Couple. La nuit tombe et après la nuit, l'obscurité. Et après l'obscurité, les yeux, les mains, les souffles, souffles, souffles. L'eau goutte à goutte qui coule du robinet, puis deux points rouges, deux cigarettes brûlent, le tic-tac de l'horloge et deux cœurs de solitude. Rampe de Noël à William Cliff. On a vendu le vieux piano d'Air Rabot, neige de l'Ardenne. Adieu les muses. Adieu les muses vertes du Mont Olympe, nous n'irons plus surprendre les deux amants. L'hiver les a figés dans la Meuse de glace. Et Rimbe, s'il reparaît, c'est en croûte. Dans la vitrine des charcuteries où trône une tête de veau, elle a deux trous rouges qui clignotent pour rien. Charleville a ses illuminations. Folélian. Verlaine, au fond de l'idéal bar, si les cœurs tend la jeune rousse assise sous les lustres de Murano, les têtes de bois sculptées dans la frise où mûrissent pour des prunes les grappes du Seigneur, c'est qu'il faut plus qu'une barbe pisseuse, un air de ressemblance et dégoiser sa vie sur neuf pieds à la manière d'eux, pour mériter de boire tout son sou aux lèvres des carolopolitaines. Lettre à l'inconnu d'en face. Reconnaissez, madame, que mourir hors du dérèglement de tous les sens est triste et sans aucun profit. Présent gâché que la vertu. La nuit vient vite et la plus belle rose est du fumier. Ouvrez vos ombres, votre giron, vos lèvres. Le clou du spectacle est en bas dans la rue où, presque comme une main sous les robes, le vent réveille les beaux orages qui nous étaient promis. Février 98. Avec 6 mois de retard sur les oies sauvages, 129 ans après l'as des fugueurs ardennais et son merdre à la poisseuse poésie, j'ai quitté Charleville et l'inconnu d'en face, dont les dentelles festonnées de givre battaient avec mon cœur contre la vitre. J'ai fait un signe à la Meuse, baignant dans sa luxure verte, et dit « Allons, mais sur deux jambes, au diable le génie ».
Tant d'agitation, voir tous ces doigts de pied, toute cette peau qui se déverse, qui tremble comme de la gelée, ça me donne envie de vomir. De voir toutes ces gouttes d'individus gras, je ne peux pas prendre cette main qui tremble entre mes doigts, qui me glisse entre les doigts. Tant d'agitation me fait peur, tant d'agitation m'oppresse et tant d'agitation vous rend si faible face au statut. Vous voulez jouer au bac à sable ? Pour avoir les yeux vers le bas et ne pas voir qu'elle rit, car tant d'agitation les chatouille et elle se tape sur l'épaule. Cessez de vous croire votre propre Dieu. Nous ne sommes rien que du chien-dent misérable, sans relation, sans entremêlement, sans racines communes, et nous respirons tous cet air pourri. C'est la merde, et uniquement la merde que nous partageons. Ce n'est pas l'amour, il n'a pas le droit de citer. À l'ombre des statues, ce n'est pas l'amour. Oui, je sais, quelle autre connerie universelle. Nous ne partageons rien d'autre que la merde. C'est de là qu'il faut partir. Si nous osons parler de beau, notre langue tombe et nous parlons aussi de respect, d'amour et de conscience. Mais d'un point de vue individuel, en chacun de nous s'incarne l'idéal céleste. Balançons ce ciel qui pue au lieu de faire des bulles de l'atmosphère gluante, car nous-mêmes sommes puants. Nous sommes remplis de ciel puant. Et chaque main que nous tendons ne cherche qu'à coller de toute sa merde. Chaque mot de notre langue forme vient baver de notre jouissance, colle et dégouline de forme toujours insatisfaisante. À chaque mouvement que nous tentons, la terre entière tremble, se soulève, se retourne. Et elle nous lèche de tous ces nuages pestilentiels, nous plaque au sol. Nous ne savons plus que dégouliner et baver sur les autres. Je ne veux plus qu'on bave dessus. Gardez votre salive. Pour embrasser les autres, je n'ai pas besoin de votre haleine puante. Pour savoir que ce monde doit crever, et je déteste votre rouge sur les lèvres gonflées de carbone, je ne veux plus me prélasser dans la merde, car ce n'est pas la mienne, et je vous supplie de ne plus vouloir la partager. Cela me fait vomir, et je ne veux plus vomir, car nous vomissons tous, par tous les pores de la peau, et c'est notre Dieu que nous vomissons, dont nous nous peignons, qui forme notre habit. Basta, basta, cessons de nous emmerder, cessez de m'emmerder avec vos dégoulinages bien pensants, cessez de vouloir veiller sur les autres et d'abord sur moi, en agitant partout vos mains dégoûtantes, vous ne faites que noyer le poisson. nous fourrer les doigts au fond de la gorge et nous vomissons. Nous, nous vomissons nous-mêmes et nous ne faisons qu'un avec notre vomi, avec vos doigts. Alors cessez de m'alimenter. Laissez-moi crever plutôt que d'avaler toujours la même merde. Je préfère être sec et avoir froid que de puer au chaud dans la transpiration de nos mollesses.
J'ai senti vraiment que vous rompiez autour de moi l'atmosphère, que vous faisiez le vide pour me permettre d'avancer, pour donner la place d'un espace impossible à ce qui, en moi, n'était encore qu'en puissance, à toute une germination virtuelle et qui devait naître, aspirée par la place qui s'offrait. Je me suis mis souvent dans cet état d'absurde impossible pour essayer de faire naître en moi de la pensée. Nous sommes quelques-uns à cette époque à avoir voulu attenter aux choses, créer en nous des espaces à la vie, des espaces qui n'étaient pas et ne semblaient pas devoir trouver place dans l'espace. J'ai toujours été frappé de cette obstination de l'esprit à vouloir penser en dimension et en espace, et à se fixer sur des états arbitraires des choses pour penser, à penser en segments, en cristalloïdes, et que chaque mode de l'être reste figé sur un commencement, que la pensée ne soit pas en communication instante et ininterrompue avec les choses, mais que cette fixation et ce gel, cette espèce de mise en monument de l'âme, se produisent pour ainsi dire avant la pensée. C'est évidemment la bonne condition pour créer. Mais je suis encore plus frappé de cette inlassable, de cette météorique illusion qui nous souffle, ces architectures déterminées, circonscrites, pensées, ces segments d'âme cristallisés comme s'ils étaient une grande page plastique et en osmose avec tout le reste de la réalité et la surréalité, et comme un rétrécissement de l'osmose, une espèce de communication retournée. Loin que j'y voie un amoindrissement du contrôle, j'y vois au contraire un contrôle plus grand, mais un contrôle qui, au lieu d'agir, se méfie. Un contrôle qui empêche les rencontres de la réalité ordinaire et permet des rencontres plus subtiles et raréfiées, des rencontres amincies jusqu'à la corde, qui prend feu et n'auront jamais. J'imagine une âme travaillée et comme souffrée et phosphoreuse de ces rencontres comme le seul état acceptable de la réalité. Mais c'est je ne sais pas quelle lucidité innommable, inconnue, qui m'en donne le ton et le cri et me les fait sentir à moi-même. Je les sens à une certaine totalité insoluble, je veux dire sur le sentiment de laquelle aucun doute ne mord. Et moi, par rapport à ces remuantes rencontres, je suis dans un état de moindre secousse. Je voudrais qu'on imagine un néant arrêté, une masse d'esprit enfouie quelque part, devenue virtualité.
Yay! Il faut concilier efficacité et générosité pour s'attraper les plumes. Les enfants vont bien, je crois. Et vous, avec cette heure pleine de rocambolesques rebondissements...
Ratatouillesques, je dirais.
Ratatouillesques, bon
appétit. Tout s'est mélangé, oui.
Pour vos oreilles bien remplies, nous l'espérons, avec de temps en temps des moments de digestion, c'est-à-dire quelques espaces libres de silence, rien que pour prendre le temps de respirer et de comprendre ce qui va se passer ou d'improviser. Et dans tout ça, nous avons donc raconté quoi, dans quel ordre? Oumaru, encore.
Comme une maladie.
L'épisode d'Oumaru, effectivement. Et puis, donc, couple de... Alors, excusez-moi pour la prononciation. Je n'ai aucune prétention en persan, mais de Forug Farogzad.
Ah, Forug Sarutrak.
Ah, merci. Traduit du persan par Laura et Ardeskir Tirandaz. Qui évoquait ces deux cigarettes, et donc j'ai enchaîné avec un extrait du Mantre de Fortune de Guy Goffet et ces deux trous rouges qui clignotent pour rien.
Greg, des beaux classiques de cette voix.
Alors,
chaude.
J'ai essayé d'attaquer. Est-ce qu'avec ce coronavirus de la lecture, que nous avons tous attrapé,
oui.
Une lecture sans vraiment tout
c'est
comprendre.
C'est le virus qui vient du cœur.
Voilà, c'est ça, ce besoin existentiel de jeter les mots, hein, les casser.
Par la fenêtre.
Voilà. Donc, j'ai dû commencer par du Léopold Sédar Senghor, que je prononce très bien, hein, malgré le. L'exotisme. Et donc, je suis tombé sur un bout de texte après. Oh, je crois qu'il y en a eu des problèmes techniques. J'ai fini par lire du Antonin Artaud. Donc, c'était juste avant, pour essayer de. Le Pesner, c'est ce passage-là. J'ai lu du Henri Michaud, peut-être. Ouais.
Si, si.
La nuit des embarras. Ah oui.
voilà.
Quelques beaux embarras. Et puis j'ai mis un vinyle dans la vinyle. Ouais, c'était, ça a été
dans la boîte à vinyle.
Épique cette mise en vinyle d'ailleurs. Merci FX, tu as été formidable. Je m'en rappelle plus, c'est un vinyle que m'a offert ma copine à Noël. J'espère que tout le monde est content de l'entendre.
Je crois qu'Adrien était plus formidable que moi pour le son.
C'est l'heure des dédicaces, apparemment.
Bah voilà.
Adrien, une dédicace.
Ouais, spéciale dédicace à Nathalie. Nathalie, c'était pour toi, Les Enfants Vont Bien, qu'on a lu à plusieurs voix. Oui, donc on a lu à quatre voix le début des Enfants Vont Bien, le dernier bouquin de Nathalie Quintane. Et je n'ai pas lu Monique Wittig-Lopoponax, okay, qui est restée sur la table et qui sera lue peut-être dans deux semaines. Hein, nous verrons.
Prochaine fois. Et pour et ma Julie. Part, j'ai lu en début d'émission, mais du coup, je ne sais pas si vous l'avez entendu ou non, un petit bout de texte écrit par ma main et par la spontanéité du surréalisme de mon cerveau. Et autrement, des extraits du livre S'attraper de Michael André, chopé au super festival qui avait lieu le week-end dernier, Moult, au théâtre de l'Élysée, qui était consacré du coup à la poésie. Et fanzine, micro-édition, où Adrien était dans l'organisation.
Ouh,
c'était bien, j'ai chopé plein de choses, donc quelque chose. Donc voilà, S'attraper, lu maintenant, et puis d'autres en stock pour les prochaines émissions. C'est bon pour tout le monde.
C'est le moment
yes,
de
on
dire.
Respire.
Comment faut-il que je vous dise ?
On se retrouve dans deux semaines. Ciao.
Inch'Allah.
Des bisous. Inch'Allah.
Bisous.